Pour la plupart des gens, il est toujours difficile de rendre visite à une personne qui souffre parce qu'on ne sait pas trop quoi lui dire, sinon des banalités à mourir d'ennui, ou des bobards du genre « tu verras, demain ça ira mieux ». Comment encourager quelqu'un qui est sur le point de pénétrer dans la vallée de l'ombre de la mort? C'est à cette question que l'apôtre Pierre répond. Il continue donc de présenter les raisons pour lesquelles il est possible de faire face aux persécutions avec courage et même en se réjouissant. Je continue à lire dans le premier chapitre de la première épître de l'apôtre Pierre. « Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait naître à une vie nouvelle, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour nous donner une espérance vivante. » Verset 3. Dans cette doxologie qui pourrait être qualifiée d'hymne de louange du combattant chrétien, Pierre encourage les croyants en leur rappelant qu'ils possèdent une espérance à toute épreuve, la vie éternelle que nul ne peut leur ravir, car elle se trouve dans les cieux. Pierre veut donc que ses lecteurs regardent au-delà de leurs afflictions présentes afin de se réjouir par anticipation. La source du salut est en Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et pour cette raison, il doit être exalté. Le mot pour « louer soit Dieu » a donné « éloge » en français, et dans les Écritures, il n'est utilisé que pour Dieu. Appelé Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ est une façon assez typique de l'identifier dans le Nouveau Testament, mais qui est choquante pour les Juifs traditionalistes. Historiquement, ils rendent grâce à l'Éternel en le reconnaissant comme l'ordonnateur de tout ce qui existe et comme rédempteur de leur peuple. En créant le monde, Dieu a prouvé sa toute-puissance et en délivrant Israël de l'esclavage égyptien, il est devenu leur sauveur. Mais pour ceux qui ont foi en Jésus, il convient de louer Dieu parce qu'il est le Père du Seigneur Jésus-Christ. Ce titre résume ce que les Écritures enseignent concernant le Fils de Dieu. Il est Seigneur, c'est-à-dire le Maître suprême. L'apôtre Jean le désigne d'ailleurs comme la parole devenue chair. Quant au mot « Christ », il veut dire la même chose que « Messie », celui qui est « oint » ou « consacré ». Mis à part le temps qui a précédé sa mort sur la croix, quand Dieu le Père s'est détourné de son Fils et quand ce dernier s'est écrié « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?», Jésus appelle toujours Dieu « Père » ou « mon Père ». En parlant ainsi, il a complètement rompu avec la tradition juive où Dieu est très rarement appelé « Père » et pratiquement toujours au nom de la nation. Je lis un passage. « Comment peut-on ainsi se conduire envers lui, nation folle, insensée? N'est-il pas votre Père et votre Créateur, celui qui vous a fait, qui vous a établi? » Quand Jésus appelait Dieu son Père, il prétendait être son Fils éternel, c'est-à-dire de la même nature que lui. D'ailleurs, il a carrément dit « Moi et le Père, nous sommes un. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Des affirmations qui lui ont valu de gros ennuis de la part des chefs religieux. La relation que Jésus, le Fils, entretient avec Dieu le Père n'est pas comparable avec celle du croyant. Et Jésus a bien marqué cette distinction quand, le matin de sa résurrection, il a dit à Marie-Madeleine « Va trouver mes frères et dis-leur de ma part, je monte vers mon Père, qui est votre Père, vers mon Dieu, qui est votre Dieu. » Le croyant appelle Dieu son Père parce qu'il est né dans la famille de Dieu et a été adopté comme fils ou fille, alors que Jésus est le Fils éternel de Dieu égal au Père. Pierre écrit aussi que, dans sa grande miséricorde, Dieu nous a fait naître à une vie nouvelle. C'est la grande mansuétude divine qui est le fondement du salut, et cette vie nouvelle qu'il nous donne est rien de moins que Dieu qui partage l'essence de sa vie même avec ses créatures. C'est tout à fait extraordinaire et impossible à saisir. Rien n'est comparable à un tel privilège. Dieu a vu la condition pitoyable des misérables pécheurs que nous sommes. Il a aussi considéré que dans sa justice absolue et à cause de sa sainteté, il était obligé de nous condamner. Alors il a eu compassion de nous et nous a fait grâce pour nos offenses contre lui en Jésus-Christ. C'est toujours en Jésus-Christ et grâce à lui et seulement à lui que nous pouvons être sauvés. La miséricorde divine conduit le pécheur de la détresse à la gloire. C'est un changement de condition de vie. Et la grâce de Dieu le mène de la culpabilité à l'acquittement. C'est un changement juridique de position. L'apôtre Paul écrit « Tous sont péchés, en effet, et ils sont déclarés justes par sa grâce. » Quand Jésus opérait des guérisons miraculeuses, c'était afin de prouver que Dieu est miséricordieux. Et quand il pardonnait les péchés, c'était pour révéler sa grâce. Pierre écrit donc « Dans sa grande miséricorde, Dieu nous a fait naître à une vie nouvelle grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour nous donner une espérance vivante. » L'expression « fait naître à une vie nouvelle » traduit un seul verbe en grec. Il n'est utilisé que deux fois dans le Nouveau Testament, uniquement par Pierre et seulement dans ce chapitre. Le temps du verbe signifie un événement ponctuel et unique qui a déjà eu lieu. Cette nouvelle naissance produit une espérance vivante parce que le croyant sait qu'un jour il sera glorifié dans les cieux pour l'éternité. L'espérance de la vie éternelle que le croyant possède a ses racines dans la résurrection du Christ. Avant d'appeler Lazare hors de son tombeau, Jésus a dit à sa sœur Marthe « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra même s'il meurt. Et tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. » Je continue le texte. « Car Dieu a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. » Verset 4. Le mot-clé de ce passage est « héritage », c'est-à-dire le patrimoine familial qu'on transmet ou qu'on reçoit. Dans l'ancienne version grecque de l'Ancien Testament, le mot pour héritage est aussi utilisé pour désigner la terre promise par l'Éternel à Israël. C'était sa possession, un don que Dieu lui avait accordé gratuitement. L'héritage du croyant, son salut et ses récompenses ne peuvent pas être détruites par des forces hostiles, ni se gâter, ni perdre de leur éclat. Contrairement à tout ce que les hommes peuvent considérer comme précieux, la vie éternelle est indestructible et d'une valeur incomparable. Pour cette raison, l'apôtre Paul écrit « Vous êtes ressuscités avec le Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut, là où se trouve le Christ qui siège à la droite de Dieu. De toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut et non vers celles qui appartiennent à la terre. » Un héritage qui ne peut se détruire. Le verbe ainsi traduit signifie exactement ça, qui n'est pas périssable et donc qui n'est pas sujet ni à la mort ni à la destruction. J'ai entendu une histoire genre « Tout va très bien, madame la marquise ». Un beau matin, un homme apprend que son grand-oncle d'Amérique est décédé. Qu'à cela ne tienne, il vient d'hériter d'une immense villa de maître sur la côte de la Louisiane. Mais à peine a-t-il fini de sembler le champagne qu'il reçoit un coup de fil comme quoi la maison est partie en fumée à cause d'un incendie. Malheureusement, elle n'avait pas été assurée à cause du coût prohibitif dû à sa situation dans une zone propice aux cyclones. Mais il n'en est pas ainsi de l'héritage du croyant, de son trésor glorieux, de sa maison céleste, du salut et de ses récompenses. Tout cela ne disparaîtra jamais. Le verbe traduit par « qui ne peut se Corrompre décrit un objet ou une personne immaculée, sans la moindre tache, sans défaut et donc parfait. Le troisième verbe, qui ne peut perdre sa beauté, décrit une fleur qui ne se fane pas. En grec, les trois verbes cités commencent par la même lettre et se terminent par la même syllabe. Pierre cherche ainsi à décrire de façon cumulative le caractère glorieux de l'héritage du croyant. Plus loin dans ce chapitre, l'apôtre utilise à nouveau le verbe « qui ne peut se détruire » quand il dit à ses lecteurs qu'ils sont nés d'une semence immortelle, la parole vivante et éternelle de Dieu. En d'autres mots, l'héritage du croyant est tout aussi immortel, incorruptible et inaltérable que la parole de Dieu. Je continue le texte. Il tient cet héritage en réserve pour vous dans les cieux, vous qu'il garde par sa puissance au moyen de la foi en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. Versets 4 et 5. D'une part, l'héritage des croyants est en lieu sûr dans les cieux, et d'autre part, les héritiers eux-mêmes sont protégés par le souverain berger qui garde constamment un œil sur chacune de ses brebis. Jésus a dit « Je suis le bon berger ». Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il tient cet héritage en réserve pour vous dans les cieux, vous qu'il garde par sa puissance. Le mot pour « garde » était un terme militaire qui désignait une garnison à l'intérieur d'une ville. Paul utilise ce mot quand il écrit que la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. On raconte l'histoire de cet Écossais croyant, mais aussi très austère, qui dans ses dernières volontés demanda à ce qu'un seul mot soit gravé sur sa pierre tombale. Le mot « garder ». Quelle plus grande espérance pourrait-on donner à ceux qui sont persécutés que de leur dire qu'ils sont gardés par la puissance de Dieu afin de les préserver pour un héritage dont ils prendront un jour possession. Vous qu'ils gardent en vue du salut. Ce dernier mot signifie secours, délivrance. Il s'agit de la vie éternelle promise par Dieu, mais dont la jouissance par le croyant est encore partielle et bien pâle par rapport à ce qu'elle sera dans les cieux. Dans le Nouveau Testament, le salut a trois dimensions temporelles. L'aspect passé, qui est la justification, survient au moment où je place ma confiance en Jésus. Je suis alors délivré de la condamnation due au péché. En second lieu, l'aspect présent du salut est la consécration, aussi appelée sanctification. Elle dure toute la vie et consiste en une délivrance progressive de la puissance du péché. Le salut est donc un événement ponctuel passé, mais qui a des répercussions dans le présent. Troisièmement, le salut a un aspect futur qui est la glorification. Au retour du Seigneur ou à la mort du croyant, Dieu le débarrasse définitivement de la présence du péché en lui. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit que le Christ viendra une seconde fois, non plus pour ôter les péchés, mais pour sauver ceux qui attendent de lui leur salut. Quand Pierre écrit « vous qu'il garde en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin », il présente l'aspect futur du salut comme si c'était une maison clé en main, en quelque sorte, prête à recevoir son propriétaire. Cependant, le salut futur est une doctrine complexe et difficile. La glorification du croyant comprend plusieurs niveaux qui sont liés aux différentes étapes de la fin de l'histoire humaine. La période qui s'appelle la fin des temps sera déclenchée par l'enlèvement de l'Église. Et le dernier événement remarquable de l'histoire humaine est l'ultime révolte des hommes contre la royauté du Christ à la fin du millénium. Je lis ce passage étonnant. Lorsque les 1000 ans seront écoulés, Satan sera relâché de sa prison et il s'en ira tromper les nations des quatre coins de la terre, Gog et Magog, il les rassemblera pour le combat en troupes innombrables comme les grains de sable au bord des mers. Les nations s'ébranlèrent sur toute la surface de la terre et investirent le camp du peuple de Dieu et la ville bien-aimée de Dieu. Mais un feu tomba du ciel et les consuma. Entre ces deux événements, qui sont l'enlèvement de l'Église et la rébellion ultime, aura lieu le moment de la fin que mentionne Pierre et qui correspond au retour de Jésus-Christ pour établir son royaume 2000 ans. Ce sera aussi le jugement de ce monde, tel que nous le connaissons, et l'acquisition de la plénitude du salut pour les élus. Bien que le croyant possède déjà le salut ici et maintenant, il n'en prendra pleinement possession que dans le futur et en trois phases consécutives. La première a lieu au moment de sa mort ou de l'enlèvement de l'Église. La deuxième, quand Jésus établira son royaume sur terre. Et la troisième, à la fin de son règne 2000 ans. Alors Dieu créera de nouveaux cieux et une nouvelle terre, et le croyant entrera dans la pleine jouissance de son héritage céleste et glorieux. Telle est l'espérance que l'apôtre Pierre veut convier à ses lecteurs. Dieu a promis que dans la perfection du royaume des cieux, une gloire éternelle inimaginable serait l'héritage du croyant. En attendant ce jour, suis-je content de moi? Pas du tout. Je cours vers le but à l'exemple de l'apôtre Paul qui écrit « Je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. » Oui, mais moi, je suis encore loin du but, très loin même. Et en plus, je tombe souvent en cours de route. En fait, tant que je serai dans ce corps, j'aurai des démêlés avec moi-même et avec les autres. Par exemple, il m'arrive encore de rater de belles occasions de me taire, et ne parlons pas des pensées nocives qui m'assaillent. Je tire toujours comme un boulet la vieille nature pécheresse que j'ai héritée d'Adam, et elle est lourde. Comme l'apôtre Paul, je peux dire « Je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas, je le commets. » Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps voué à la mort? Ce n'est pourtant pas en suivant une loi et des règles de conduite que je pourrais changer mon état. Répandre du parfum sur un tas de fumier ne le transforme pas en un lit de roses. En attendant de prendre possession de mon héritage céleste, je peux plaire à Dieu en me soumettant humblement à lui. Je continue le texte. Voilà ce qui fait votre joie, même si actuellement il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Verset 6. L'espérance qui est liée à l'éternité du royaume des cieux produit une joie dans le présent, même dans le creuset de l'adversité. Du moins, c'est ce que Pierre veut pour ses lecteurs, sachant que dans la fournaise des persécutions, c'est le moment ou jamais de s'accrocher à ce qu'on dit croire. La connaissance théologique pure et dure est stérile. Il faut que la saine doctrine se transforme en saine pratique au moyen de la foi. L'apôtre Jean écrit « La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi ». Le mot traduit par « fait votre joie » signifie « soyez dans l'allégresse ». En effet, même si les lecteurs doivent traverser diverses épreuves, celles-ci sont temporaires et ne doivent pas assombrir l'espérance chrétienne enracinée en Jésus-Christ. La joie du croyant est indépendante de ses circonstances et doit pouvoir se vivre au milieu des persécutions. C'est aussi l'enseignement de l'Épître aux Hébreux, de Jacques et de l'apôtre Paul dans toutes ses lettres. Dans notre culture occidentale dépravée, nos contemporains adorent une trinité diabolique, l'orgueil de la vie, la convoitise des yeux et la convoitise de la chair. Ce qui compte, c'est d'avoir une super bagnole, les sorties, les vacances, le ski et la planche à voile, du sexe à gogo, une superbe maison et la retraite à se faire plaisir. Ces affections qui tournent à l'obsession n'ont pas un poil de valeur au regard de l'éternité. Quel contraste avec la joie du salut du croyant qui provient de l'inébranlable conviction qu'il possède la vie éternelle grâce au Christ crucifié et ressuscité, et que cette joie trouvera sa pleine réalisation dans la gloire céleste. Dans le sermon sur la montagne, Jésus a dit « Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. Oui, réjouissez-vous alors et soyez heureux, car une magnifique récompense vous attend dans les cieux. »